Bonjour. Je vous propose la lecture d'un passage du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17 et à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. C'est un épisode bien connu de l'activité de Paul. Paul qui, à ce moment-là, je ne refais pas l'histoire que vous connaissez certainement, mais attend Silas et Timothée à Athènes. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu. Alors, ce qu'on appelle les adorateurs de Dieu, c'est des gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont même pas prosélytes, puisque non circoncis, mais qui sont attachés au Dieu d'Israël. Et chaque jour, sur la place publique, à tous les passants. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens. Bon, là, je peux aussi m'arrêter deux secondes pour dire ce que sont les épicuriens et les stoïciens. Alors ça prendrait quelques heures s'il fallait être exhaustif. Je vous renvoie pour ceux qui ont ce souvenir à vos cours de philo de terminale. L'épicurisme et le stoïcisme sont les deux écoles philosophiques en vogue à l'époque. Comment faire simple ? Si je vous dis que l'épicurisme est un hédonisme et que le stoïcisme est un eudémonisme, ça ne vous parlera peut-être pas plus que ça. Tout ça, c'est des mots français, mais tirés de mots grecs. On va dire que pour faire simple, l'épicurisme, c'est une philosophie qui est fondée sur la recherche du plaisir. Alors, pas forcément, parce que nous, on pense recherche du plaisir, luxure, etc. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais le plaisir, c'est-à-dire la satisfaction qu'on peut éprouver, c'est la finalité ultime. Et donc, je disais que le stoïcisme, lui, est un eudémonisme, c'est-à-dire, donc si on s'en tient à l'étymologie grecque, la recherche du bonheur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, encore une fois, pour faire simple, et c'est pas facile de dire ça en quelques mots, l'épicurien va dire « quand j'ai faim, je mange, quand j'ai soif, je bois, etc. » La liste, vous la devinez. Donc ça, c'est la satisfaction, c'est se donner le plaisir de satisfaire ses besoins. Et le stoïcien, lui, va dire je vais apprendre à mon corps à n'avoir faim qu'aux heures des repas, par exemple. Voilà. Alors effectivement, j'espère qu'il n'y a pas de prof de philo parmi vous, sinon je me fais lyncher, c'est clair. Mais j'essaye de dire les choses. Alors ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que ces gens-là sont, alors contrairement aux juifs qui sont dans la synagogue, et on vient de le lire, Paul s'adresse aux juifs et aux adorateurs de Dieu dans la synagogue, et là, son discours, il est simple, c'est le Messie qu'Israël attend depuis toujours, il est venu, c'est Jésus de Nazareth, et Dieu en a donné la preuve en le ramenant d'entre les morts. Voilà, ça c'est le fond du discours que Paul peut adresser à ses frères juifs qui comprennent d'emblée ce discours-là. Si vous tenez le même discours dans les rues d'Athènes, on vous regarde avec des yeux comme ça, parce que c'est à des années-lumière de leur représentation. Donc il faut parler d'autre chose. En tout cas, pas forcément d'autre chose, mais il faut parler autrement. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas m'étendre, parce que ça me ferait plaisir de vous parler d'épicurisme et de stoïcisme pendant la matinée, mais on n'est pas là pour ça. Donc, il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que veut donc dire ce bavardage ?» Je sais pas, c'est traduit comment, oui. Alors, cette jacasse, moi, je suis moyennement d'accord avec la traduction, là, mais ça veut dire ce bavardage. Et d'autres, ce doit être un prédicateur de divinité étrangère. Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Là, il y a un malentendu entre celui qui parle et ceux qui écoutent, parce que résurrection, aussi bien en grec qu'en français, c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. Ben, pour la bonne raison que des résurrections, il n'y en a pas tous les jours. Des gens qui reviennent de la mort et qui sont de nouveau vivants après avoir été morts, ça ne court pas forcément les rues. Donc, dans le langage courant, bah, comptez le nombre de fois où vous avez prononcé le mot résurrection dans votre semaine. Vous verrez que c'est pas, il n'y en a pas des kilos. C'est pareil à Athènes. Et donc, du coup, résurrection, qui se dit Anastasis en grec, mais peu importe, ça peut passer, si on écoute d'une oreille distraite, pour le nom d'une divinité. Donc, quand Paul dit je vous annonce Jésus et la résurrection, donc ça, pour eux, ça peut passer pour deux noms propres, donc le nom de deux divinités. Voilà, c'est là qu'est le malentendu évoqué ici. Je continue ma lecture. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aréopage. Je m'arrête encore. L'aréopage, c'est deux choses. C'est d'abord un lieu. Alors, en grec, c'est en deux mots. Hein. Ça veut dire la colline d'Arès. Arès, c'est un nom propre. Pourquoi la colline d'Arès? Parce que c'est l'endroit où s'est tenu un procès célèbre, le procès d'Arès. Arès étant, dans l'histoire grecque, quelqu'un qui avait tué l'homme qui avait violé sa fille. Voilà. Et donc, c'est tenu sur cette colline le procès de ce type qui s'appelait Arès. Ça a été un procès retentissant qui s'est terminé par un acquittement. On a tellement parlé de ce procès qu'on a donné le nom d'Arès à la colline, en colline d'Arès, aréopage. Donc quand je dis ces deux choses, c'est ça, d'une part, c'est un lieu, et c'est aussi un tribunal, c'est-à-dire c'est la Cour suprême. Alors si vous comparez à on est décidément influencé par la culture américaine, donc si on veut comparer avec quelque chose de plus français, c'est la Cour de cassation. L'aréopage, donc, c'est parce qu'on va parler après de quelqu'un qui est aréopagite. Ça ne veut pas dire qu'il habite sur la colline, ça veut dire qu'il est membre de cette cour suprême, puisque donc c'est aussi un tribunal, puisque toujours en souvenir du procès d'Arès, on a donné aussi son nom au tribunal suprême. Et donc là, il y a une... Inutile de vous dire que sur ce passage-là, il y a des bouquins qui ont été écrits en grand nombre. Et donc, la question peut se poser de savoir si quand on dit devant l'aréopage, on parle du lieu ou on parle du tribunal, le contexte incite à penser qu'il s'agit plutôt du lieu. Bon, je continue. Donc, devant l'aréopage, pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés, et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Au Dieu inconnu ». Entre parenthèses, on l'a retrouvé, hein, cet autel, il existe vraiment. La seule différence étant que sur cet autel, mais il y en avait vraisemblablement plusieurs autels à Athènes qui portaient sur leur fronton « Au Dieu inconnu », celui qu'on a retrouvé, c'est au pluriel et pas au singulier. Au Dieu inconnu, au pluriel. Mais ça existe. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, et il a défini des temps fixés et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu, peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Donc là, il cite deux poètes grecs qui s'appellent respectivement. Donc le début de la citation, c'est une citation d'Épiménide, sauf erreur de ma part. Enfin, oui. Et le deuxième, c'est un poète, donc car nous sommes de sa race. Alors, de sa race, effectivement, c'est un mot en ce moment un peu tabou. Il faut comprendre de sa semence. Hein, parce que le terme grec que vous allez facilement identifier, c'est sperma. De sa race. Alors, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination des hommes. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclaraient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Certains pourtant s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'Aréopagite, donc là ça veut clairement dire qu'il est membre de la Cour suprême, et une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Voilà. Comme je le disais, ce passage a donné lieu à l'écriture de livres entiers. Et il y a beaucoup à dire, et je vous assure que la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est de trier dans tout ce qu'il y a à dire pour ne garder que l'essentiel. Alors, c'est mon tri à moi, éminemment subjectif par définition, donc pardon d'avance si je passe à côté de choses que vous estimez essentielles. Il faut faire deux remarques préliminaires par rapport à mon propos. La première remarque, c'est que là, on a un concentré, un condensé même, du discours de Paul à Athènes. Vous avez vu combien de temps il m'a fallu pour le lire. Son discours sur l'aréopage, ça n'a pas duré les 4 ou 5 ou 3 ou 4 minutes que j'ai prises pour le lire. Ça a pris beaucoup plus de temps. D'autant plus qu'à Athènes, comme partout en Grèce d'ailleurs, on ne fait pas de monologue. Depuis Platon, on a estimé que la bonne manière de faire progresser le raisonnement, c'est le débat. Et donc, on n'hésite pas à s'interrompre. La preuve, c'est qu'à la fin, ils lui disent « Bon, on entendra la suite la prochaine fois. C'est la dialectique, c'est-à-dire le dialogue, qui fait progresser la pensée. C'est en tout cas comme ça que les Grecs voient les choses. Et donc, il est hors de question de laisser un type s'exprimer sans l'interrompre pendant 3 heures d'affilée. Et donc, là, on a un concentré d'autant plus que, je pense que tout le monde le sait ici, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, et que Luc, il n'est pas là à ce moment-là. Il n'a pas été témoin de ça, il n'avait pas son cahier, son stylo, et il n'était pas assis dans un coin de l'aréopage à retranscrire tout ce que Paul a raconté. Donc il a eu, alors soit par Paul, soit par quelqu'un d'autre, mais il a eu le résumé du discours. C'est Paul, vraisemblablement, qui lui a dit « voilà ce que je leur ai raconté ». Mais effectivement, si cet après-midi, quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu as raconté ce matin au culte ?» Je ne vais pas recommencer du début à la fin, je vais lui faire un résumé, je vais lui dire « j'ai parlé de ça, point ». Bon, là, c'est un peu ça. Je dis ça parce que il semble y avoir des contradictions dans ce que Paul dit aux Grecs d'Athènes, Alors qu'en réalité, il faut deviner entre chaque phrase tout ce qui s'est dit et comment sa pensée a progressé de l'une à l'autre. Bien. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que on n'est jamais derrière ce micro pour faire le malin et pour dire, voyez à quel point ma culture historique est étendue. On est là pour que Dieu, par sa parole, nous change. Ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer. Ça veut dire que tout ce qui se dit, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses, tout ce qui se dit doit nous être utile. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit d'elle-même. C'est que elle nous est concrètement utile pour progresser dans l'imitation du Christ, qui est notre objectif. Alors, là se pose évidemment le problème quand on lit ce texte-là, à part faire un rappel historique des débuts de l'Église et de sa progression dans le bassin méditerranéen, qu'est-ce qu'on peut faire de ça alors que on n'est pas des pôles? Petite précision à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, enfin, y compris, et j'allais dire surtout dans le monde évangélique. C'est vrai que Paul dit « imitez-moi ». Il le dit deux fois, il le dit notamment en ajoutant « comme moi j'imite le Christ ». Bon, « imitez-moi », c'est bien sympa, mais on n'a pas la même vocation que lui. Parce que, justement, quand il dit « imitez-moi comme moi j'imite le Christ », bien sûr que, encore une fois, notre objectif, c'est d'être rendu semblable au Christ par l'Esprit de Dieu qui nous fait progresser. Mais il y a une limite à ça, c'est que, évidemment, on n'est pas Jésus. On n'est pas... l'imitation du Christ, ça ne peut pas, à moins d'être gravement atteint, ça ne veut pas dire pour nous de sauver l'humanité en se sacrifiant. Ça n'appartient qu'à lui. Et de la même manière, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Paul et dans lesquelles on ne peut pas l'imiter, notamment sa qualité d'apôtre. Je sais bien, et je parlais de malentendu, on dit parfois, en tout cas moi je l'ai entendu, que l'appel à évangéliser, pour dire les choses comme ça, ça concerne tous les chrétiens, que le « aller » fait de toutes les nations des disciples, chacun doit prendre ça pour lui à titre individuel. Pardon de le dire brutalement, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord parce que quand il dit ça, il le dit à 11 personnes, il le dit pas à la foule, il dit « allez, faites de toutes les nations des disciples », en les baptisant et en les enseignant. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il le dit à 11 personnes dont on nous dit, un jour, il a réuni tous ses disciples, et parmi tous ses disciples, il en a choisi 12. Bon, il y en a un qui trahit, donc ça fait plus que 11. Mais il en a choisi 12, auxquels il a donné le nom d'apôtre, c'est-à-dire d'envoyé. Donc quand il dit « aller », c'est-à-dire quand il manifeste l'envoi, donc « apostolos », c'est pas à la cantonade, c'est pas à tous ses disciples. Je dis ça parce que j'ai vu des gens à qui on avait dit chacun est un évangéliste, à défaut de dire chacun est apôtre, parce que Paul quand même dit à un moment aux Corinthiens, tout le monde n'est pas, enfin il le dit de manière interrogative, mais quand il dit tous sont-ils apôtres, sous-entendu évidemment pas. Donc je dis ça parce que moi j'ai vu des gens sur les épaules desquels on mettait un fardeau beaucoup trop lourd, c'est-à-dire cette semaine tu dois amener à la fois 3, 4, 5, 12 personnes, et puis arriver au bout de la semaine, j'ai pas réussi, même pas une. Mais c'est parce que tout simplement c'est pas donné à tout le monde. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas mon propos. Ça pose un problème de dire imiter Paul, parce que imiter Paul, c'est sûrement pas aller se planter place du cours et aller dire au lieu, alors c'est plus athénien du coup, grâce-toi, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. En psychiatrie, hein, dans la demi-heure qui suit. Et en plus, ce serait mérité. Donc, imiter Paul, c'est pas ça. On est bien d'accord. Pour autant, sinon la Bible ne serait pas la Bible, moi, je pense qu'on peut tirer de cet épisode, comme de tous les épisodes de la vie de Paul, des leçons pour nous. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va l'imiter bêtement. Ça veut dire qu'on va tirer dans son comportement des leçons pour nous. Parce que si, effectivement, la Bible, et notamment Paul d'ailleurs encore, dit « Moi, j'ai été mis à part, Paul, appelé à être envoyé, apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle, mis à part », ça veut dire que ce n'est pas le cas de tout le monde, sinon ça n'a pas de sens de dire « mis à part bon. ». Pour autant, il y a aussi, mais vous le savez, dans la lettre de Pierre, un avertissement qui dit « Soyez prêts à rendre compte de votre espérance à chaque fois que l'occasion vous sera donnée. » C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Si Dieu ne nous a pas appelés à être évangélistes ou apôtres, ça nous allège du fardeau de devoir proclamer la bonne nouvelle. En revanche, on n'est pas dispensé en tant que disciple de dire à chaque fois qu'on en a l'occasion et à chaque fois notamment que des gens nous demandent pourquoi on est aussi différent des autres, de leur expliquer pourquoi. Et là, dans ce cadre-là, c'est-à-dire, pour employer le vocabulaire évangélique classique, dans notre mission, non pas d'évangéliste, parce qu'on ne l'est pas forcément, mais de témoin, et ça on l'est tous en tant que chrétien, dans notre mission de témoin, là, on peut tirer des leçons du comportement de Paul. J'espère que vous me suivez, et j'ose espérer que vous n'êtes pas en total désaccord avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à tirer du comportement de Paul? D'abord, vous avez vu à quel point il se complique la vie. Parce que, alors, non seulement il se complique la vie, mais au niveau de l'honnêteté intellectuelle, on va dire que c'est limite, selon nos critères à nous. Pourquoi est-ce que c'est limite? Très simple. Athènes, c'est, alors, de loin, et si vous connaissez un peu la littérature classique grecque, ça, c'est écrit partout. Athènes, c'est de loin la ville la plus religieuse du monde connu de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de temples, parce que les Grecs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un dieu pour tout, ou plus exactement, tout est divinisé. Ce qui nous paraît, nous, alors ce qu'on qualifie de concept ou de réalité naturelle. Alors évidemment, il y a un dieu pour le soleil, pour la lune, pour les nuages, pour la pluie, pour le beau temps, bon, d'accord. Mais tout ce qui est pour nous conceptuel, c'est aussi divinisé. Par exemple, le temps qui en grec se dit chronos, ça vous le savez puisque chronomètre, hein, bon. Chronos, c'est le temps, donc comme on le comprend nous, mais c'est aussi un dieu. Un dieu avec son histoire, donc il y a toute une mythologie, c'est-à-dire qu'à chaque élément comme ça, ou à chaque concept, on invente alors une personnalité, une histoire, un comportement, et donc c'est fait de ça, la culture grecque. Et donc, il y a un dieu pour tout, et donc il y a des temples pour chaque dieu. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter comme bâtiment et comme hôtel et comme stèle et comme et puis pour le cas, parce que il y a une chose qu'on sait sur les dieux en Grèce, c'est qu'il vaut mieux pas les contrarier. Hein. Bon. Ça, on est tous à peu près d'accord là-dessus. Et donc la façon La pire de contrarier un dieu, ce serait de l'oublier. D'oublier qu'il existe, de le passer à la trappe. Et donc, pour être sûr que à ce niveau-là, on ne s'est pas raté, eh ben, on fait un autel au dieu inconnu. Comme ça, s'il y en a un qu'on a oublié, ben, au moins il se reconnaîtra. Et ça ne le mettra pas en colère. Bon. Paul, au lieu de dire « Bon, vous, vous êtes grec, vous avez votre truc, moi, je suis juif, donc on est aux autres... » Sur le plan religieux, on est aux antipodes, les uns... Bon. Il dit, vous l'avez entendu comme moi, et vous l'avez lu, vous avez... Alors, je me suis baladé dans vos... Bon, alors, il dit ce que tout le monde dit, c'est-à-dire... vous êtes les hommes les plus religieux de la terre. Cette ville est la ville la plus religieuse de la terre, ce qui est effectivement le cas. Je me suis baladé dans vos rues, j'ai même vu un autel au dieu inconnu. Et bien, ce dieu-là, je suis venu vous en parler. Ce qui, encore une fois, je le disais tout à l'heure, alors désolé si ça vous choque, mais intellectuellement, c'est malhonnête. Parce que les Grecs, les Athéniens, quand ils font cet autel et qu'ils mettent en haut au dieu inconnu, Agnostos Theos, c'est pour le cas où, encore une fois, on en aurait oublié un, qui donc viendrait s'ajouter à la longue liste des dieux qui existent déjà, mais en aucun cas ne disqualifierait les autres dieux. Ce dieu inconnu, c'est... Si un jour quelqu'un se pointe en disant bah, « Celui que vous ne connaissez pas, moi je le connais et je vais vous en parler », il est le bienvenu, mais à condition d'ajouter une divinité à toutes les autres. Or, Paul, ce n'est pas du tout son intention. D'ailleurs, il va le dire après, dans la progression de son raisonnement. Mais lui, il n'est pas là pour dire bah, « Allez, puisque lui, il n'a pas de nom, il n'y a qu'à l'appeler Jésus. Bon, » et comme ça, l'affaire sera faite. Non, parce que on le sait, nous qui avons lu le message biblique et en tout cas qui en avons compris l'essentiel, bah, on sait que une des propriétés du Dieu de la Bible, c'est de disqualifier tous les autres. C'est proclamé à longueur de page. C'est il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Les autres, c'est des idoles. Les autres, c'est des inventions. D'ailleurs, ils ont une bouche, enfin, vous connaissez les poèmes, ils ont une bouche et ne parlent pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas, ils ont... c'est de la pure construction humaine. Et donc, il va parler de son Dieu, alors, j'y viendrai après, mais dans des termes qui sont tout à fait clairs sur ce point, ça n'est en aucun cas un Dieu qui s'ajoute aux autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il passe par ce détour surprenant de dire « Je suis venu vous parler du Dieu dont vous ne connaissez pas encore le nom, mais auquel vous avez déjà construit un autel ?» Ben, tout simplement parce que il faut, et ça c'est une leçon pour nous, il faut rentrer dans la culture de nos interlocuteurs par une porte ouverte et pas par une porte fermée. C'est-à-dire que arriver à Athènes et dire tous vos dieux, et aussi nombreux qu'ils soient, tout ça c'est des conneries, et moi je suis venu vous annoncer que des dieux il n'y en a qu'un, et il est le créateur du ciel et de la terre, et voilà, et donc il va falloir se débarrasser de tous les autres pour ne garder que celui-là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et on le sait d'autant plus qu'il y en a un, alors on dirait 3 siècles plus tôt, à qui ça a coûté la vie. C'est un nom que vous allez sans doute identifier, Socrate. Socrate, il lui est arrivé quoi alors? J'ai lu le procès de Socrate, c'est intéressant. Il est accusé de quoi, Socrate? Alors Socrate, vous savez qu'il est finalement condamné à mort, exécuté. La peine de mort à l'époque prenant la forme d'un empoisonnement, c'est-à-dire que c'est lui qui avale lui-même le poison. Bon. ce qui n'est pas la mort la plus douce qui soit. Bref, mais il est accusé de quoi, Socrate? Pourtant, grand philosophe, il est accusé. Il y a deux chefs d'accusation dans le procès de Socrate. C'est ne pas avoir reconnu les dieux d'Athènes et avoir eu la prétention d'introduire des divinités étrangères à leur place. Parce que, encore une fois, ajouter des dieux aux dieux d'Athènes, vous serez toujours les bienvenus. Arriver en disant, il y en a un de plus, deux de plus, trois de plus, douze de plus. Ok, on va construire toutes les stèles, tous les temples que vous voulez. Plus l'offre religieuse est étendue, plus on est content. Arriver en disant, tout ça, ça va à la poubelle et on n'en garde qu'un, ça passe pas. C'est ce qu'a essayé de faire Socrate, ça ne passe pas. Ça lui a coûté la vie. Alors, aujourd'hui, à l'époque où Paul prend la parole, on n'en est plus là de la sanction encourue, mais en tout cas, intellectuellement, les Athéniens vont se fermer comme des huîtres. On nous enlève tous nos dieux et on n'en met qu'un seul à la place, qui est en plus un dieu étranger, mais jamais de la vie. Et donc, Paul, faut oser quand même, parce qu'encore une fois, intellectuellement, pardon de le dire aussi franchement, mais ça sent l'arnaque, hein, de commencer par dire « je vous annonce le nom de la divinité dont vous ignorez le nom et qui va s'ajouter aux autres ». Alors, effectivement, très vite, il va progresser dans le sens du Dieu unique, c'est-à-dire qu'il va développer, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a qu'un résumé, qu'un condensé de son propos, mais progressivement, parce que si on s'y attache, on peut effectivement reconstituer tout ce qu'il y a entre deux. Mais il va progressivement faire évoluer son propos de « j'ajoute un dieu, celui que vous ne connaissez pas, et je vous révèle son nom » à « mais ça n'est pas un dieu comme les autres, ça n'est pas un dieu comme les autres parce que il est le créateur du ciel et de la terre. » Et progressivement, alors je ne vous fais pas le détail, mais il va, j'allais dire, remplir ce Dieu qui est notre Dieu de toutes ses capacités, de toutes ses œuvres. Et du coup, en creux, les Athéniens vont s'apercevoir que, vu tout ce qu'on met, tout ce que Paul met dans ce Dieu, les autres sont d'office disqualifiés. Qu'est-ce qui reste aux autres ? Qu'est-ce qui reste aux autres quand on a dit que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu du soleil, c'est le Dieu du vent, c'est le Dieu des montagnes, c'est le Dieu des rivières, c'est le Dieu de tout ce qui se voit. Qu'est-ce qui reste aux autres? Mais ce que je retiens là, et je pourrais être encore beaucoup plus long, mais je pense qu'on s'est compris. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? Encore une fois, ça paraît très éloigné, la culture grecque, parce qu'effectivement, essayer de trouver en France un bled où il y a 50 temples à 50 dieux différents. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous racontes? Bien sûr. Sauf que, notre génération, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, notre génération est en train de glisser, à une vitesse d'ailleurs assez impressionnante, d'une culture eudémoniste à une culture hédoniste. C'est-à-dire, on passe de la culture du bonheur à la culture du plaisir. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants adolescents, vous savez de quoi je parle, j'ai pas besoin d'aller plus loin. La recherche du plaisir, et parfois la recherche immédiate du plaisir. Alors, pas forcément, encore une fois, la luxure, mais se faire plaisir. Et peu importe ce qu'il y a après. Aucun souci du lendemain. Autant dans la recherche du bonheur, Dieu a sa place. Autant dans la recherche du plaisir, qu'est-ce que vous venez me raconter? Et donc, si le religieux recule à ce point et à cette vitesse dans nos sociétés, c'est précisément parce qu'on devient une société hédoniste, et précisément parce que il faut profiter de la vie carpe diem, profiter du jour, et peu importe ce qu'il y a après. Les gens préoccupés par l'après de la vie sont minoritaires. Vous discutez aujourd'hui avec des ados, ce qui leur importe, c'est quel plaisir ils vont prendre aujourd'hui. Alors, encore une fois, plaisir, pas forcément au sens monstrueux du terme, c'est pas forcément la partouze, on se comprend. C'est le plaisir de la vie, jouir de la vie. Et après, le déluge. Et donc, l'intérêt de la leçon que Paul nous donne, c'est de nous dire, même au prix d'une torsion intellectuelle quand même assez peu négligeable, il faut entrer, alors, comme disent maintenant les psychologues, entrer dans leur représentation, sinon la porte est fermée. On ne peut pas arriver, on dit aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser ni même témoigner simplement comme on le faisait en 1950. En 1950, tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'il y avait un Dieu et pour dire que, bon bref, et pour dire qu'il y avait, un au-delà et que, aujourd'hui, on s'en fout. Il faut entrer, j'allais dire par tous les moyens, et Paul, encore une fois, emploie là un moyen audacieux. Il faut entrer dans les représentations de nos interlocuteurs. Et je pourrais continuer parce qu'il va plus loin, Paul. Il va citer au profit de son argumentation des textes qui sont, alors pour certains des textes bibliques, je vais y venir, mais principalement des poètes grecs. Il est allé alors... Bon, ça, c'est pour ça que tout le monde n'est pas Paul, parce qu'il a une connaissance de la littérature grecque qui lui permet d'aller chercher dans les textes grecs, et là encore une fois, en leur donnant un sens qui n'est pas forcément le sens premier, des textes de poètes grecs qui disent bah, finalement, Dieu n'est pas si loin, on est de la même espèce, enfin de la même race si vous voulez, mais on est, on va dire, génétiquement proche. Peut-être que ce Dieu se laisse trouver aussi par ceux qui le cherchent. Prendre dans la littérature classique grecque de quoi soutenir cette argumentation, ça c'est quelque chose qui nous incite à bien connaître la culture de nos interlocuteurs. Je crois qu'on ne peut aujourd'hui atteindre nos proches. Alors, nos proches, ça peut être famille, relations de travail, relations de loisirs, parce qu'on a énormément de loisirs, sans parler des réseaux sociaux. Mais en tout cas, dans notre témoignage, on est amené, me semble-t-il, à faire l'effort d'entrer dans les représentations de nos interlocuteurs. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. C'est ce que Paul fait magnifiquement. Et encore une fois, s'il ne fait pas ça, c'est fermé. Au deuxième mot, on le fait taire. Et alors, peut-être pas pire que ça, mais il peut y avoir aussi, de la même manière... Ça me rappelle un très mauvais souvenir. Quand j'étais étudiant, j'appartenais à ce que certains connaissent, qui s'appelle le GBU, et on faisait des stands bibliques dans les restaurants universitaires. Bon. Et on faisait ça en binôme. Et je me souviens encore, et c'est un souvenir douloureux, croyez-moi, avoir entamé une discussion avec un étudiant. Donc on était en binôme, il y avait un autre qui faisait partie d'une autre église, mais je ne juge pas. Et donc, on entame une discussion avec lui, et lui donne son avis. Et avant que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche pour essayer de faire évoluer la conversation vers là où je voulais l'amener, le gars qui était à côté de moi dit « Oui, mais tout ça, ça va brûler dans le feu de l'enfer. » Le type est parti en courant. Il nous a pris pour des dingues, et il n'a pas eu tort. Bon, alors ça, c'est le cas extrême du dialogue de sourds, c'est-à-dire on parle à quelqu'un avec des mots qui ne lui disent rien d'autre que ce type devrait avoir un entonnoir sur la tête. Encore une fois, ce que je veux dire, pas être lourd là-dessus, mais ça demande un effort, aujourd'hui, d'entrer dans les représentations de nos interlocuteurs. Si on ne fait pas l'effort de savoir quel est pour eux, et je parle là aussi de fossé de génération, hein, quel est pour eux le sens de la vie, quelle est pour eux la représentation du monde, quelles sont leurs aspirations, quelles sont les choses qui leur parlent, on va arriver avec notre petit Dieu et on va repartir avec notre petit Dieu la queue entre les jambes parce qu'on n'aura pas dépassé le seuil d'une écoute polie dans le meilleur des cas. Et de toute façon, derrière, il y aura « va te faire voir avec ton truc ». Voilà la leçon que Paul donne. La deuxième leçon que Paul donne, il faut que j'aille plus vite parce que le temps passe. La deuxième leçon que Paul donne, c'est que vous savez à quel point Paul, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il vient de le montrer. Hein. Alors d'abord parce que son discours, il le fait en grec, évidemment. Sinon, personne l'écoute. Donc ça veut dire qu'il maîtrise non seulement la langue grecque parfaitement, parce que faire un discours dans une langue étrangère, bah, à la vôtre, hein, c'est pas simplement demander son chemin, hein, non seulement il maîtrise parfaitement la langue, il maîtrise parfaitement la culture, puisqu'il connaît les poètes, et il sait aller chercher la phrase de la poésie de Aratos, machin, bon. Il en sait certainement plus sur ce sujet que ses interlocuteurs. Donc c'est un intellectuel, et donc il pourrait à la limite se faire confiance ou faire confiance à son raisonnement pour essayer de convaincre. Or, toutes les phrases qu'il prononce sont des phrases bibliques. Et ça, c'est une leçon aussi. Au lieu de s'appuyer sur son intelligence, sur sa capacité de conviction, il s'appuie sur la Bible. Je peux vous donner le détail si vous voulez. Encore qu'on n'a pas le temps pour le faire. Mais quand il dit, alors, le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas la main des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé, là vous reconnaissez la Genèse bien sûr, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples, et enfin, etc. Je pourrais vous faire la démonstration. Toutes ces phrases-là sont des combinaisons de phrases bibliques puisées principalement dans les psaumes, un peu, je l'ai dit, dans la Genèse, mais essentiellement les psaumes et Ésaïe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il sait, et ça c'est une sagesse à laquelle je voudrais bien accéder, il sait que entre sa capacité de conviction et la puissance de la parole de Dieu, faut pas compter sur soi. Faut compter sur l'enseignement biblique. Ce qui suppose aussi, là encore, deuxième effort, non seulement parce que la manière dont il articule les phrases bibliques, ça prouve que non. Alors évidemment, il est juif, bon, alors il le dit, hein, il dit, moi je suis juif, et puis je suis pas de n'importe où, je suis pas de n'importe qui, enfin bon, très bien. Donc effectivement, il connaît la Bible par cœur, ce en quoi il n'a, j'allais dire, aucun mérite, comme tous les juifs éduqués de son temps, parce qu'il a appris à lire dans la Bible, donc ça aide quand même, hein. Et puis il n'y a pas beaucoup d'autres bouquins non plus. Donc, mais non seulement il connaît les textes, mais il les a compris, il les a digérés. Ça veut dire qu'il y a réfléchi. Ça veut dire qu'il n'a pas simplement lu la Bible, il l'a étudiée. Il l'a étudiée pour la comprendre. Et sa force de conviction face à des étrangers, parce que là, il est en milieu complètement étranger, c'est aussi, on pourrait croire que, il se soit dit... Ben, je leur citerai bien des textes bibliques pour appuyer mon argumentation, mais de toute façon, ça ne va pas leur parler, puisque eux, la Bible, ils ne l'ont pas lu, donc ils s'en foutent. Et donc, je vais plutôt essayer de les convaincre seulement avec leur argumentation à eux, c'est-à-dire les poètes grecs, je vais en faire des tonnes. Non, il y a un équilibre, alors extrêmement subtil, mais c'est toute la sagesse de Paul et surtout toute la capacité du Saint-Esprit de l'inspirer, c'est que ce texte est un magnifique cocktail de, comme je le disais tout à l'heure, de culture grecque et de connaissances bibliques. C'est-à-dire qu'il a confiance, même si culturellement il y a un éloignement certain, il a confiance dans la capacité du texte biblique à convaincre des gens qui pourtant sont de totales étrangers. Ça, c'est la deuxième leçon. Et puis la troisième leçon, alors je vais vite, enfin je vais de plus en plus vite, donc je prends de moins en moins de temps pour... la troisième leçon, mais ça c'est... C'est à peine besoin d'en parler parce que ça transparaît visiblement. C'est que, alors que, et ça, ça peut, c'est certainement un de mes défauts, quand je discute avec quelqu'un, je me laisse embarquer dans des discussions parce qu'effectivement, sur l'épicurisme, le stoïcisme, il y a de la matière, vous pouvez y aller. L'hédonisme, le démonisme, quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'une vie bonne au sens philosophique du terme. Moi, si on s'assoit autour d'un café, on peut y aller pour un paquet d'heures. Lui, il a cette qualité, il ne perd pas de vue le but. Et le but, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus, pas une doctrine, pas une philosophie, une personne. Et l'œuvre de Jésus, c'est-à-dire la résurrection. Au début du texte, quand il parle dans la rue, quand il parle avant d'être emmené sur l'aréopage, il commence à s'adresser aux passants dans la rue. Et le texte nous dit, les passants, donc effectivement, du coup c'est le tout venant, en entendant à chaque phrase Jésus est... Donc Anastasis, la résurrection, ils disent, bon, c'est des divinités étrangères. Parce que, encore une fois, ce sont deux mots qui reviennent quasiment dans toutes les phrases. C'est une obsession chez Paul, mais c'est une bonne obsession. Et à la fin de son discours à l'aréopage, où est-ce qu'il en est arrivé avec tout son détour par l'autel à des dieux étrangers, machin? Et puis il a créé le ciel et la terre, et puis il n'a pas besoin du service de la main des hommes, machin. Et il arrive où? Il arrive, et c'est magnifique, alors encore une fois, on n'a que le résumé du résumé, hein, mais il en arrive à dire « Dieu, sans tenir compte de ses temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. » Tout l'évangile est dans cette phrase, enfin dans ces deux phrases. Et donc, ce qui est admirable chez Paul, et ce qui doit nous servir de leçon, c'est que depuis le début, puisque ça commence comme ça et ça finit comme ça, hein, il commence par se balader dans les rues d'Athènes en parlant de Jésus et de la résurrection, et il finit sur l'aréopage en disant « Jésus et la résurrection ». C'est son obsession, encore une fois une bonne obsession. Et j'ose dire, ça devrait être la nôtre. Alors encore une fois, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit avant, à la nécessité d'une part d'entrer dans les représentations de nos interlocuteurs et d'autre part d'avoir non seulement lu mais digéré la Bible au point de s'en servir comme socle pour ce que nous annonçons. Mais cette insistance, et d'ailleurs, il le dira, s'il n'y a pas de résurrection, vous connaissez ce texte, hein, s'il n'y a pas de résurrection, notre prédication ne sert absolument à rien, n'a aucun sens, n'a aucun intérêt. Et même notre foi, le terme grec c'est vide, notre prédication est vide et notre foi aussi. Et donc, pour lui, le sens de sa mission, et Et j'ose dire, ça devrait être aussi le sens de notre témoignage. Ce qui est compliqué, encore une fois, dans un monde devenu hédoniste, c'est de dire, nous, on est préoccupés par ce qu'il y a après, mais en même temps, on a cette, du coup, bonne nouvelle, euangelion, en grec, évangile, on a cette bonne nouvelle à annoncer, c'est que on sait comment Dieu, non pas nous, mais comment Dieu a réglé ce problème pour l'humanité. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, prétendre savoir, c'est excessivement prétentieux, mais c'est une image facile. Mais quand un avion se casse la figure et que vous savez où se trouve le gilet de sauvetage, ou quand vous êtes sur le Titanic et que vous savez où se trouvent les canaux, non seulement c'est pas prétentieux de le dire à votre voisin qui lui ne le sait pas, mais c'est franchement impératif. Je sais qu'on ne vit pas forcément de cette manière-là l'annonce de l'Évangile, mais parce que du coup, on passe pour prétentieux. Savoir comment tu peux être sûr alors que l'humanité entière cherche. La réponse, c'est parce que je l'ai rencontré et qu'il m'a parlé. Il a aussi l'intention de te dire à toi où est le canot de sauvetage ou où est le gilet de sauvetage. Donc, du coup, ça n'a rien de prétentieux de prétendre apporter le salut aux autres, le salut qu'on a reçu, mais pour le partager. Et Paul vit ça de manière obsessionnelle. Et ce qui est admirable chez lui, parce que je peux vous dire que... je ne suis jamais allé discuter à Athènes, mais ce que je peux vous dire, c'est que les stoïciens et les épicuriens, c'est une argumentation serrée. Et que donc... Et au point d'ailleurs que, forcément, et c'est ce qui nous attend aussi dans notre témoignage, mais on l'a tous vécu et on le vivra encore, on arrive forcément à un point de rupture. On arrive forcément à partager l'auditoire, ou partager ceux qui nous entendent, même si c'est individuellement, entre ceux qui disent « bon allez, tu nous saoules », parce que c'est ce que ça veut dire, hein, « on t'attend ». On t'entendra là-dessus une autre fois, c'est une façon polie de dire bon, tu nous gaves avec tes histoires de résurrection, ça va bien, laisse-nous entre gens intelligents et va raconter tes conneries ailleurs. Hein, c'est en gros. Sauf que, on nous donne deux exemples de gens qui ont été convaincus. La leçon de ça aussi, c'est que le discours de Paul ne s'est pas perdu dans les nuages des gens qui ont dit « ils nous gonflent », il y a aussi, à un moment donné, un effet de l'annonce et des gens qui sont convaincus. Et pas forcément n'importe quel, parce que Denis, on nous dit que c'est un membre du tribunal, puis c'est pas n'importe quel tribunal, encore une fois, c'est la Cour suprême, donc c'est pas le dernier des clampins. Alors, le dernier des clampins mérite aussi d'accéder au salut, c'est pas la question. Mais ça veut dire que la manière dont Paul s'y est pris était convaincante, au point qu'un type qui est un magistrat à Athènes, ce qui n'est pas rien, ait pu être convaincu. Et puis une femme aussi. Et donc, ça veut dire que si dans notre témoignage qui, encore une fois, nécessite tous ces efforts que j'ai décrits pour être non seulement présentable, mais audible, tout simplement, on n'a pas à s'étonner du fait que la majorité des gens, malgré tout ce qu'on aura pu faire, nous dira « écoute, t'es gentil, mais maintenant ferme-la, parce que ça suffit. » Mais que de temps en temps, alors très minoritairement, bien sûr, il n'y a pas... la moitié des gens qui écoutaient Paul qui ont été convaincus. Mais peu importe. J'allais dire peu importe le nombre. C'est vrai que Jérusalem, on le disait tout à l'heure, c'est par milliers. Bon. Donc, On pourrait dire, moi, à moins de 1000 personnes qui se convertissent en m'écoutant, je ne me donne pas la peine de prendre la parole. Là, on ne sait pas combien il y en a eu. Peut-être qu'une poignée, mais ça ne fait rien. L'œuvre de Dieu s'est accomplie par le ministère de Paul. Et donc, je pense que la bonne nouvelle mérite au moins qu'on prenne ces précautions qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles, mais encore une fois, l'annonce de la bonne nouvelle mérite que on fasse ces efforts-là pour que Dieu, parce que c'est on sème, mais c'est Dieu qui fait croître, dira Paul, hein, pour que Dieu puisse faire son œuvre dans le cœur de ceux qui nous sont chers. Voilà.